Chapitre 9. Le souper du prince. Ces choses qui fait songer au destin des nations que de vous conter tout cela qui vient de survenir et qui marque un grand changement, un grand tournement pour le royaume, justement ici entre toutes places, justement à Verdun. Pourquoi ? Mais mon neveu, parce que le royaume y est né, parce que ce qu'on peut nommer le royaume de France est issu du traité signé ici même après la bataille de Fontenoy, alors Fontanettum. Vous savez bien où nous sommes passés, entre les trois fils de Louis le Pieux. La part de Charles le Chauve y fut pauvrement découpée, d'ailleurs sans regarder les vérités du sol. Les Alpes, le Rhin, eussent dû être frontières naturelles à la France, et il n'est pas de bon sens que Verdun et Metz soient terres d'empire. Or, que va-t-il en être de la France demain ? Comment va-t-on la découper ? Peut-être n'y aura-t-il plus de France du tout dans 10 ou 20 ans, certains se le demandent sérieusement. Il voit un gros morceau anglais et un morceau navarrais allant d'une mer à l'autre avec toute la Languedoc et un royaume d'Arles rebâti dans la mouvance de l'Empire, avec la Bourgogne en sus. Chacun rêve de dépecer la faiblesse. Pour vous dire mon sentiment, je n'y crois guère, parce que l'Église, tant que je vivrai et que vivront quelques autres de ma sorte, ne permettra point cet écartèlement. Et puis le peuple a trop le souvenir et l'habitude d'une France qui fut une et grande. Les Français verront vite qu'ils ne sont rien s'ils ne sont plus du royaume, s'ils ne sont plus rassemblés dans un seul État. Mais il y aura des gués difficiles à traverser. Peut-être serez-vous mis devant des choix pénibles. Choisissez toujours Archambault dans le sens du royaume, même s'il est commandé par un mauvais roi. Parce que le roi peut mourir ou être déchassé ou tenu en captivité, mais le royaume dure. La grandeur de la France, elle apparaissait, au soir de Poitiers, dans les égards même que le vainqueur, ébloui de sa fortune et presque n'y croyant pas, prodiguait au vaincu. Étrange tablée que celle qui s'installa après la bataille, au milieu d'un bois du Poitou, entre des murs de drap rouge. Aux places d'honneur, éclairées par des cierges, le roi de France, son fils Philippe, monseigneur Jacques de Bourbon, qui devenait duc puisque son père avait été tué dans la journée, le comte Jean d'Artois, les comtes de Tancarville, d'Étampes, de Dammartin, et aussi les sires de Joinville et de Parthenay, servis dans des couverts d'argent. Et répartis aux autres tables, entre des chevaliers anglais et gascons, les plus puissants et les plus riches des autres prisonniers. Le prince de Galles affectait de se lever pour servir lui-même le roi de France et lui verser le vin en abondance. « Mangez, cher sire, je vous en prie, n'ayez point regret à le faire. » Car si Dieu n'a pas consenti à votre vouloir et si la besogne n'a pas tourné de votre côté, vous avez aujourd'hui conquis haut renom de prouesse et vos hauts faits ont passé les plus grands. Certainement, monseigneur mon père vous fera tout l'honneur qu'il pourra et s'accordera à vous si raisonnablement que vous demeurerez bons amis ensemble. Au vrai, chacun ici vous reconnaît le prix de bravoure, car en cela, vous l'avez emporté sur tous. Le ton était donné. Le roi Jean se détendait. L'œil gauche tout bleu et une entaille dans son front bas, il répondait aux politesses de son hôte. Roi chevalier, il lui importait de se montrer tel dans la défaite. Aux autres tables, les voix montaient de timbre. Après qu'il s'était durement heurté à l'épée ou à la hache, les seigneurs des deux parties à présent faisaient assaut de compliments. On commentait haut les péripéties de la bataille. On ne tarissait pas de louanges sur la hardiesse du jeune prince Philippe qui, lourd de mangeaille après cette dure journée, dodelinait sur son siège et glissait au sommeil. Et l'on commençait à faire les comptes. Outre les grands seigneurs, ducs, comtes et vicomtes qui étaient une vingtaine, on avait déjà pu dénombrer parmi les prisonniers plus de 60 barons et bannerets. Les simples chevaliers, écuyers et bacheliers ne pouvaient être recensés. Plus d'un double millier, assurément. On ne saurait vraiment le total que le lendemain. Les morts, il fallait les estimer en même quantité. Le prince ordonna que ceux déjà ramassés fussent portés dès l'aurore suivante au couvent des frères mineurs de Poitiers, en tête les corps du duc d'Athènes, du duc de Bourbon, du comte-évêque de Châlons, pour y être enterrés avec toute la pompe et l'honneur qu'ils méritaient. Quelle procession! Jamais couvent n'aurait vu tant de hauts hommes et de si riches lui arriver en un seul jour. Quelle fortune, en messes et dons, allait s'abattre sur les frères mineurs, et autant sur les frères prêcheurs. Je vous dis tout de suite qu'il fallut dépaver la nef et le cloître de deux couvents pour mettre dessous, sur deux étages, les Geoffroy de Charny, les Rochechouart, les Eustache de Ribemont, les Danse de Melon, les Jean de Montmorillon, les Seguin de Cloux, les Lafayette, les La Roche-Dragon, les La Roche-Foucault, les La Roche-Pierre-de-Bras, les Olivier de Saint-Georges, les Imbert de Saint-Saturnin, et je pourrais encore vous en citer par vingtaine. « Sait-on ce qu'il est advenu de l'archiprêtre ?» demandait le roi. L'archiprêtre était blessé, prisonnier d'un chevalier anglais. Combien valait l'archiprêtre? Avait-il gros château, grande terre? Son vainqueur s'informait sans vergogne. Non, un petit manoir à Vélines. Mais que le roi l'ait nommé, haussait son prix. « Je le rachèterai !» dit Jean II, qui, sans savoir encore ce qu'il allait coûter lui-même à la France, recommençait à faire le grandiose. Alors le prince Édouard de répondre « Pour l'amour de vous, sire mon cousin, je rachèterai moi-même cet archiprêtre et lui rendrai la liberté si vous le souhaitez. » Le ton montait autour des tables. Le vin et les viandes, goulûment avalées, portaient à la tête de ces hommes fatigués qui n'avaient rien mangé depuis le matin. Leur assemblée tenait à la fois du repas de cour après les grands tournois et de la foire aux bestiaux. Morbecque et Bertrand de Troyes n'avaient pas fini de se disputer quant à la prise du roi. « C'est moi, vous dis-je. Que non, j'étais sur lui, vous m'avez écarté. À qui a-t-il remis son gant ?» De toute manière, ce ne serait pas à eux qu'irait la rançon, énorme à coup sûr, mais au roi d'Angleterre. Prise de roi est au roi. Ce dont ils débattaient, c'était de savoir qui toucherait la pension que le roi Édouard ne manquerait pas d'accorder. À se demander s'il n'aurait pas eu plus de profit, sinon d'honneur, à prendre un riche baron qu'il se serait partagé. Car on faisait des partages si l'on avait été à deux ou trois sur le même prisonnier, ou bien des échanges. « Donnez-moi le sire de la Tour, je le connais, il est parent à ma bonne épouse. Je vous remettrai Mauvinet que j'ai pris, vous y gagnez, il est sénéchal de Touraine. » Et le roi Jean, soudain, frappa du plat de la main sur la table. « Mais sire, mes bons seigneurs, j'entends que tout se fasse entre vous et ceux qui nous ont pris selon l'honneur et la noblesse. » Dieu a voulu que nous soyons déconfits, mais vous voyez les égards qu'on nous prouve. Nous devons garder la chevalerie, que nul ne s'avise de fuir ou de forfaire à la parole donnée, car je le honnirai. » On eût dit qu'il commandait, cet écrasé, et il prenait toute sa hauteur pour inviter ses barons à être bien exacts dans la captivité. Le prince de Galles, qui lui versait le vin de Saint-Émilion, l'en remercia. Le roi Jean le trouvait aimable, ce jeune homme, comme il était attentif, comme il avait de belles façons. Le roi Jean eût aimé que ses fils lui ressemblassent. Il ne résista pas, la boisson et la fatigue aidant, à lui dire « N'avez-vous point connu monsieur d'Espagne ?»« Non, cher sire, je l'ai seulement affronté sur mer. » Il était courtois, le prince, il aurait pu dire « Je l'ai défait. » C'était un bon ami, vous m'en rappelez la mine et la tournure. » Et puis soudain, avec de la méchanceté dans la voix, « Ne me demandez point de rendre la liberté à mon gendre de Navarre. Cela, contre ma vie, je ne le ferai point. » Le roi Jean II, un moment, avait été grand, vraiment. Un très bref moment, dans l'instant qui avait suivi sa capture. Il avait eu la grandeur de l'extrême malheur. Et voici qu'il revenait à sa nature. Des manières répondant à l'image exagérée qu'il se faisait de soi, un jugement faible, des soucis futiles, des passions honteuses, des impulsions absurdes et des haines tenaces. La captivité, d'une certaine façon, n'allait pas lui déplaire. Une captivité dorée, s'entend, une captivité royale. Ce faux glorieux avait rejoint son vrai destin, qui était d'être battu. Fini pour un temps les soucis du gouvernement, la lutte contre toutes choses adverses en son royaume, l'ennui de donner des ordres qui ne sont point suivis. À présent, il est en paix. Il peut prendre à témoin ce ciel qui lui a été contraire, se draper dans son infortune et feindre de supporter avec noblesse la douleur d'un sort qui lui convient si bien. À d'autres le fardeau de conduire un peuple rétif. On verra s'ils parviennent à faire mieux. « Où m'emmenez-vous, mon cousin ?» demanda-t-il. « À Bordeaux, cher sire, où je vous donnerai bel hôtel, pourvoyance et fête pour vous réjouir, jusqu'à ce que vous vous accommodiez avec le roi mon père. » « Est-il joie pour un roi captif ?» répondit Jean II, déjà tout attentif à son personnage. Ah, que n'avait-il accepté au début de cette journée de Poitiers les conditions que je lui portais ? Vit-on jamais pareil roi, en position de tout gagner le matin sans avoir à tirer l'épée, qui peut rétablir sa loi sur le quart de son royaume seulement en posant son sein et son sceau sur le traité que son ennemi traqué lui offre, et qui refuse, et le soir se retrouve prisonnier. Un oui au lieu d'un non. L'acte irrattrapable. Comme celui du comte d'Harcourt remontant l'escalier de Rouen au lieu de sortir du château. Jean d'Harcourt y a laissé la tête. Là, c'est la France entière qui risque d'en connaître agonie. Le plus surprenant et l'injuste, c'est que ce roi absurde, obstiné seulement à gâcher ses chances et qu'on aimait guère avant Poitiers, est bientôt devenu, parce qu'il est vaincu, parce qu'il est captif, objet d'admiration, de pitié et d'amour pour son peuple, pour une partie de son peuple. Jean le brave, Jean le bon. Et cela commença dès le souper du prince. Alors qu'ils avaient tout à reprocher à ce roi qui les avait menés au malheur, les barons et chevaliers prisonniers exaltaient son courage, sa magnanimité, que sais-je. Ils se donnaient, les vaincus, bonne conscience et bel aspect. Quand ils rentreront, leur famille s'étant saignée et ayant saigné leur manant pour payer leur rançon, ils diront, soyez-en sûrs, avec superbe, « Vous ne fûtes pas comme moi auprès de notre roi Jean. » Ah, ils la raconteront la journée de Poitiers. À Chauvigny, le dauphin, qui prenait un repas triste en compagnie de ses frères et entouré seulement de quelques serviteurs, fut averti que son père était vivant, mais captif. « À vous de gouverner à présent, monseigneur, » lui dit Saint-Venant. Il n'y a guère dans le passé, à mon savoir, prince de 18 ans qui ait eu à prendre le gouvernail dans une situation aussi piteuse. Un père prisonnier, une noblesse diminuée par la défaite, deux armées ennemies campant dans le pays, car il y a toujours Lancastre au-dessus de la Loire, plusieurs provinces ravagées, point de finances, des conseillers cupides, divisés et haïs, un beau-frère en forteresse, mais dont les partisans bien actifs relèvent la tête plus que jamais, une capitale frémissante qu'une poignée de bourgeois ambitieux incite à l'émeute, ajoutez à cela que le jeune homme est de chétive santé et que sa conduite en bataille n'a pas fait grandir sa réputation. À Chauvigny, toujours ce même soir, comme il avait décidé de rentrer à Paris par le plus court, Saint-Venant lui demanda « Quelles qualités, monseigneur, devront donner à votre personne ceux qui parleront en son nom ?» Et le dauphin répondit « Celles que j'ai, Saint-Venant, celles que Dieu me désigne, lieutenant général du royaume. » Ce qui était parole sage. Il y a 3 mois de cela, rien n'est tout à fait perdu, mais rien non plus ne donne signe d'amélioration, tout au contraire. La France se défait. Et nous allons dans moins d'une semaine nous retrouver à Metz, d'où je ne vois pas trop, je vous l'avoue, quel grand bien on pourrait sortir, sauf pour l'empereur, ni quelle grande œuvre s'y pourrait faire, entre un lieutenant du royaume, mais qui n'est pas le roi, et un légat pontifical, mais qui n'est pas le pape. Savez-vous ce qui vient de m'être dit ? La saison est si belle et les journées sont si chaudes à Metz, où l'on attend plus de 3 000 princes, prélats et seigneurs, que l'empereur, si cette douceur se maintient, a décidé qu'il donnerait le festin de Noël au grand air, dans un jardin clos. Dîner dehors à Noël en Lorraine. Encore une chose que l'on n'avait jamais vue.